Merkel. Pour répondre à ces questions, un débat, deux économistes, Jacques Attali, le dirigeant de Planète Finance, et Jean-Hervé Lorenzi, le président du Cercle des économistes.
Les débats de 2012, à retrouver tout à l'heure sur France Inter, à partir de 18h20. FIP reçoit Anthony Joseph et Carlton Rara ce soir à 20h30 au studio 105 de la Maison de la Radio. Un concert exceptionnel à écouter en direct sur FIP et FIPRadio.fr. FIP, une radio du groupe Radio France.
France Inter,
la différence.
Il me semble que là-bas, si j'y suis avec Daniel Mer, mais c'est maintenant. Bip.
Il m'avait bien semblé qu'on se faisait avoir, mais au vu de l'exposé d'Éric Toussaint, c'est pas l'arnaque du siècle, c'est au moins celle du millénaire. Sarko, Merkel, le FMI et leurs potes banquiers, main dans la main pour mettre les peuples à genoux. Faire du profit sur la dette grecque. Il n'y a donc pas de limite à l'ignominie. Hein. Bon, mais depuis dimanche, c'est toi François qui y es aux manettes. Organise-le donc au niveau national, cet audit de la dette. Et puis, tu sais, un gars comme Éric Toussaint dans ton gouvernement, ça pourrait aider. C'était Christine du Limousin.
Bonjour, j'écoutais là-bas, c'est ici aujourd'hui, là. C'est intéressant sur la dette publique. Mais c'est trop à la fois, trop d'explications, parce que c'est trop compliqué. Il faut en donner un petit peu à la fois. Marteler-le, répétez souvent ce que vous avez dit, là, le répétez souvent pour qu'on puisse imbiber ça, comprendre ça longtemps dans notre tête. Merci Daniel, au revoir.
Bonjour Daniel, c'est Dany de Picardie. Je voulais juste vous faire sourire en cette fin de semaine. C'est vrai qu'en ce moment, on en a bien besoin. Hier, j'envoie un petit mot doux à mon amoureux qui me répond tout aussi amoureusement. Je cite, tu devrais écouter l'émission de Mère Médi hier. Fabuleux. Amusant, non? En tous les cas, je ne manquerai pas d'écouter. Allez, bon week-end à tous. Ciao.
Bonjour, je ne sais pas si vous êtes au courant. Le Congrès brésilien vient de voter une loi qui va permettre aux exploitants agricoles brésiliens de détruire d'immenses espaces forestiers. Depuis 2004, je crois que la forêt était protégée là-bas, et maintenant, voilà, ils veulent tout à fait revenir en arrière. Et donc, ça serait dramatique, parce que, voilà, c'est d'immenses espaces forestiers seraient susceptibles d'être détruits, d'être abattus. Voilà, et donc, il faut signer une pétition. Je rappelle, donc, c'est avaaz.org. Réfléchissons à ça aussi.
Eh ben, réfléchissons, on va tous réfléchir. Merci pour ces quelques messages. Chers AMG, aujourd'hui, le poison grec. La Grèce est considérée comme une nation peuplée d'enfants à qui il faut retirer des mains les clés de la voiture. Qui dit ça, c'est Naomi Klein. Vous vous souvenez, Naomi Klein, l'auteur de la stratégie du chaos et qui s'est intéressé à ce qui se passe en Grèce, cette infantilisation d'un peuple sous tutelle de la fameuse Troïka, et qui a voté, comme vous le savez, ces jours derniers, une élection qui a surpris nos éminents éditocrates, qui ont dit toute leur angoisse devant la montée des extrêmes, et en faisant un amalgame entre le parti néo-nazi Aube Dorée, qui est passé avec 7%, et qui est vraiment, qui se dit, voilà, nous sommes un parti néo-nazi, mais bien sûr, et amalgame avec la coalition de gauche radicale Syriza, qui est passée avec 16,7%, et voilà, on mélange le tout, ce qui est une vieille stratégie, sans vouloir comparer, ce qui n'est pas nécessairement comparable, mais enfin, il fut un temps dans les années 30 où on faisait amalgame entre, disons, Hitler et le Front Populaire. C'était pour certains à peu près la même chose. Là, j'exagère un peu, mais enfin, ça procède du même amalgame. Mais c'est une façon de masquer l'effondrement des partis, des ex-grands partis favorables au plan de rigueur imposé par la fameuse Troïka. On vous a présenté deux séries de reportages sur la Grèce, sur ce qui se passe en Grèce, et on se tient informé, bien sûr, tellement ce qui se passe là est important, pas seulement évidemment pour la Grèce, mais pour l'ensemble de l'Europe. Et aujourd'hui, je vous propose un entretien avec Stathis Kouvelakis, comme son nom l'indique, Statis est grec, mais il enseigne à Londres, il est chercheur en philosophie politique, il enseigne au King's College de Londres et il a longtemps vécu ici, il est parfaitement francophone et je vous propose de passer cette heure avec lui. C'est de voir quel est un regard peut-être un peu différent de celui qui a prévalu ces jours derniers et aujourd'hui encore. Alors, vous avez compris le système qui n'est pas si simple à comprendre en Grèce. C'est le parti qui arrive en tête, à qui il est dévolu le rôle de composer un gouvernement à condition d'avoir le soutien de l'ensemble d'une majorité des élus. Ça a été impossible pour le parti arrivé en tête, Nouvelle Démocratie. Ça a été impossible pour le parti Syriza qui est arrivé en deuxième position, à la surprise générale. C'est le parti de la gauche radicale. Et c'est impossible aussi pour, on vient d'apprendre il y a quelques heures, pour le PASOK, le parti socialiste, qui était en troisième position, qui lui non plus ne parvient pas à constituer une base nécessaire pour constituer un gouvernement. Donc, vraisemblablement, il y aura à nouveau des élections en Grèce dans les semaines qui viennent. La date n'est pas encore fixée. Mais pour l'instant, je vous propose cet entretien avec Statis Kouvelakis. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Bonjour, moi je suis par un curieux hasard dans les locaux de l'usine de Fralim. Alors je voulais juste dire que ces personnes ont récupéré leurs locaux et que maintenant il s'agit de les garder. Alors à toutes les personnes qui savent pas quoi faire, qui se disent comment je peux aider, eh bien maintenant il faut occuper l'espace, qu'ils prennent contact avec eux et qu'ils viennent pour éviter que le matériel s'en aille. Voilà ce que j'avais à dire. Si tu peux faire passer le message, maintenant il s'agit d'être sur place et de faire. Merci, si ça peut aider. Au revoir.
Son corps de bâtiment n'a qu'un rez-de-chaussée. Un polonia touffu lui tamise un jour vert. Sa fenêtre vivante a son vitrage ouvert, où palpite un rideau de lavande passée. Je ne veux pas savoir ce qu'elle fut jadis. Ermitage idyllique, ancienne orangerie, elle s'est enchantée sans fin ma songerie, son jardin désuet sans la menthe et l'iris. Rose à la hauteur du cœur des amants, rose, seuil frais qu'on passe à deux après un long détour, préférant au soleil ton incendie, amour, clair de lune à midi des persiennes closes. Cretonne d'autrefois, vase où fane un bouquet, lit de repos ayant la forme d'une barque, ruban de nuit servant de signet à Pétrarque, pantoufles chavirées au lac blond du parquet. François D. Eh bien, je ne culpabilise pas, parce que dans le melting pot des messages, à côté des ricanements d'un beauf, du glapissement de colère d'un syndicaliste, etc., etc., je trouve qu'une petite minute de respiration poétique, c'est pas si mal que ça. Alors, c'est à vous de décider. Bon, apparemment, ça ne vous enchante pas des masses. Peut-être. Mais il n'y a pas que la politique dans la vie. Bah oui. La poétique, c'est peut-être pas mal non plus. Hein?
Peuple en avant, on ne baisse pas la tête. Soulèvement encore et encore.
Eat the rich. Mangez le riche.
Liberté, guerre à la guerre des patrons.
Alors voilà, là c'est un début de la manif de ce 17 novembre à Athènes. Il y a une haie de 4 ou 5 militaires policiers qui sont par centaines avec leurs casques blancs et leurs boucliers. Et les manifestants continuent d'arriver.
C'est parti là, ça y est, on est... On est complètement encerclé là par les bombes lacrymogènes.
200 piternels, flics, porcs, assassins.
Il y a un cordon là, qui sont à 20 mètres derrière. Vraiment derrière.
Et là, on entend le bruit de vitres qui sont brisées à coups de masse. C'est comme d'habitude des banques. C'est le bruit de marbre qui sont cassés pour faire des projectiles contre les policiers.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas que j'y suis, avec Statis Kouvelakis, le poison grec.
Flight number 2, arriving.
Statis Kouvelakis, comment je vous présente, enseignant, chercheur en philosophie politique au King's College de Londres.
C'est ça même.
Grec.
Oui.
Français.
Français, non, mais ayant passé une bonne partie de ma vie ici, et étant fils de réfugiés politiques à l'époque de la dictature des colonels, j'étais scolarisé dans le système français, voilà, d'emblée, quoi. Donc,
alors, Statis, francophone. On va essayer de comprendre ce qui se passe en Grèce. On a vu, suite à ces élections de dimanche dernier, à nouveau la Grèce arrive en première ligne, et la Grèce tétanise de nouveau, le poison grec tétanise à nouveau l'Europe, le truand du monde, ce qui est bon et bon, et des extrêmes. Alors, pratiquement toute la presse chez nous a titré sur ce parti qui s'appelle Aube Dorée, et qui est un parti qui se proclame ouvertement du néo-nazisme et qui a fait quelque chose comme 6 ou 7%. Et puis alors, on dit symétriquement, il y a une montée de l'autre extrême, c'est-à-dire l'extrême gauche, c'est-à-dire Syriza. On connaît ces vieilles façons de discréditer la gauche, c'est une vieille coutume. On l'a vu pendant le Front populaire en France, où on mettait au même niveau la montée du nazisme en Allemagne et la montée du Front populaire en France. C'est une vieille stratégie, on est un petit peu surpris qu'elle soit aussi fortement mise en avant par certains médias et par certains observateurs ou par certains hommes politiques. Alors, on voudrait essayer de comprendre en quoi est-ce que ce qui se passe en Grèce menace effectivement l'Europe. Comment en est-on arrivé à cette panique ?
Bien, alors, trois facteurs à prendre en compte ici. Premièrement, les politiques néolibérales qui ont été suivies par tous les gouvernements grecs au pouvoir, tout particulièrement depuis les années 90, ont aggravé encore le problème des recettes de l'État grec en suivant la recette bien connue qui consiste à imposer de moins en moins un capital qu'il était déjà très peu, premièrement. Donc l'impôt sur la société n'a cessé en fait de baisser, d'abord avec le gouvernement du socialiste modernisateur Simitis, puis avec les gouvernements de droite qui se sont succédés. Deuxième point, et c'est l'essentiel bien sûr, la crise économique de 2008, qui provoque deux choses. Premièrement, c'est une crise qui affecte profondément le secteur bancaire. Et les États viennent au secours du secteur bancaire. Bon, et ça coûte. Donc, les États s'endettent, en quelque sorte, encore davantage pour renflouer le système bancaire. Et ça a aggravé, bien sûr, les problèmes des déficits et des endettements des États à peu près partout. Et déjà, la Grèce était dans une position qui était très fragilisée. Par ailleurs, avec la récession économique, l'activité se rétracte et automatiquement, les recettes déjà problématiques de l'État se rétractent avec la récession. Donc, brutalement, les besoins d'endettement commencent à augmenter de tous les côtés à la fois. Au même moment, on sait bien qu'avec la manière dont l'union économique et monétaire est créée, pour couvrir leurs besoins d'endettement et pour pouvoir rembourser précisément les dettes qu'ils ont déjà contractées, les États sont obligés de recourir aux marchés internationaux. Mmh. Et les marchés internationaux, voyant le phénomène d'emballement justement de la dette publique grecque, ont commencé à faire payer de plus en plus cher les bons qui étaient émis, les titres du trésor grec, qui étaient proposés sur les marchés internationaux. Et à un point où ces taux sont devenus complètement prohibitifs. C'est les fameux spreads, c'est-à-dire le différentiel des taux entre les émissions du trésor grec et puis les émissions allemandes qui servent de point de référence, en quelque sorte. Mais le problème de la Grèce vient maintenant au Portugal, par exemple, vient en Espagne. Ces fameux spreads que tout le monde regarde augmentent dans tous ces côtés. Pourquoi ? Parce que on considère que ces pays ont de plus en plus de mal à, et auront de plus en plus de mal à rembourser des dettes qu'ils contractent. Et donc là, il y a un véritable phénomène de cercle vicieux qui se met en place.
Oui, c'est ça, parce que les remboursements sont de plus en plus élevés.
Voilà, donc il est arrivé un moment où ces taux sont arrivés à un point tel que la Grèce ne pouvait plus raisonnablement continuer à avoir recours au marché pour couvrir les besoins de remboursement de sa dette. Se met donc en place ce fameux mécanisme du mémorandum signé entre le gouvernement grec et la Troïka, ce qu'on appelait depuis la Troïka, c'est-à-dire, et ça c'est une innovation, l'Union européenne, à travers ses deux composantes, la Banque centrale européenne et l'Union européenne, et le Fonds monétaire international. Et la recette de ces mémorandums appliqués à la Grèce est exactement la même que celle que le Fonds monétaire international a auparavant appliquée dans les pays du Sud et dans les pays d'Europe de l'Est, à ceci près que l'un des leviers qui ont toujours été utilisés dans le cadre de ces thérapies extrêmement drastiques, et dont les grandes lignes sont partout les mêmes, privatisation, baisse des salaires, baisse du coût du travail, dérégulation de l'ensemble des relations sociales, mais pour amortir le choc, dans les pays du Sud et dans les pays d'Europe de l'Est d'ailleurs, on a eu recours à la dévaluation de la monnaie. Parce que la dévaluation de la monnaie permet d'absorber en quelque sorte le choc et de modérer la pression qui est exercée sur les salaires pour gagner précisément en compétitivité, parce que c'est ça le pari qui est fait. Le but est d'améliorer une compétitivité qui est jugée insuffisante du pays et qui en quelque sorte l'est. Dans le cas de la Grèce, ce n'est pas possible, parce que la Grèce continue à faire partie de la zone euro. Donc la totalité de la pression qui est exercée dans ces politiques dites d'évaluation interne tombe sur le coût du travail. Et donc, on a assisté à des baisses de salaire en Grèce qui, en moyenne, atteignent déjà 25% et sont en réalité bien supérieures dans la plupart des secteurs. Et ce ne sont pas simplement les salaires qui sont touchés, ce sont aussi l'ensemble des dépenses publiques, des dépenses sociales, donc les salaires, donc les dépenses de la santé et de l'éducation, donc le véritable phénomène d'effondrement, en fait, de l'État et des services publics auxquels on assiste actuellement.
En Grèce, deux jours après les législatives, la crise économique laisse place à une vraie crise politique.
BFM, 8 mai 2012.
Les conservateurs pro-austérité ont échoué. Aujourd'hui, c'est la gauche radicale qui essaie de monter un gouvernement de coalition. Pour le chef du parti, la Grèce n'est plus liée à ses engagements envers l'Union européenne et le FMI, des discours qui font craindre un scénario d'une faillite du pays et d'une sortie de la Grèce de la zone euro. Voilà qui inquiète évidemment les marchés. La bourse d'Athènes a perdu 10% en deux jours. Le CAC aujourd'hui s'effondre de 2,8, moins 3,6 aujourd'hui pour la bourse d'Athènes.
Να μένω, ούτε να περιμένω να με δεις ποιος ένω. Επιμένω κι αν χάσω έχει καλός. Θα προσπαθήσω να φανώ δυνατός. Ξέρεις τώρα είμαστε μεγάλα παιδιά και δεν χωράνε σε μια σχέση ψέματα. Δεν χωράνε εγωισμοί ούτε άγχοι. Όμως πάντα σε μια σχέση υπάρχουν λάθη. Υποχωρήσεις και πολλά συγγνώμη. Που άμα δεν τα πούμε δεν αλλάζει γνώμη. Κι αν δεν θέλεις να μιλάμε τότε μη μου μιλάς. Εγώ ακόμη θα είμαι εκεί οπότε με ζητάς. Στιγμές καλές και όχι μόνο κακές. Μου αφήσαμε στο θες. Κι ό,τι έχει απομείνει τώρα δυο καρδιές χωριστές. Αναρωτήσου γιατί δεν θες. Η αγάπη είναι ό,τι πιο τρελό. Έλα να ζήσουμε το αύριο μαζί εδώ. Ας ένα λάδι μου. Ας είχε τον εγωισμό. Και τόσο τόπος ό,τι θέλει το δικό μας καλό.
Tatis Kouvelakis, Naomi Klein, la chercheuse américaine, enfin canadienne, qui est l'auteur de la stratégie du choc dont je voudrais vous entendre parler concernant votre pays. Elle dit « La Grèce est considérée comme une nation peuplée d'enfants à qui il faut retirer des mains les clés de la voiture. »
Exactement.
C'est-à-dire que vous êtes des gens irresponsables, vous êtes des grands enfants, les Grecs, on vous connaît, vous dansez, vous adorez vous amuser, vous avez une espèce de cigale comme ça à n'en plus finir. Alors, ça nous enchante quand on va en vacances chez vous, vous êtes des gens légers et amusants. avec beaucoup de corruption quand même, une bande de feignants, quoi, hein, c'est un peu comme ça qu'on vous voit. Et heureusement, la partie plus responsable de l'Europe, pas seulement de l'Europe, hein, c'est aussi le Fonds monétaire international, vous cadre, enfant dissipé que vous êtes. Irresponsable.
Oui, je note aussi que dans le numéro du Monde auquel vous avez fait allusion avant, il y a un entretien avec Daniel Cohn-Bendit qui déclare que si on laisse les Grecs se débrouiller tout seuls, ça va se finir dans un nouveau coup d'État. Sous-entendu, c'est également des gens totalement irresponsables, incapables de régler leurs affaires internes.
Les enfants vont foutre le feu.
Exactement. Autrement qu'en mettant à la place une nouvelle dictature des colonels. Ce type de politique ne peuvent pas passer et sont incompatibles avec le fonctionnement normal d'un régime démocratique parlementaire tel que nous avons l'habitude de le comprendre. Ça, c'est un point essentiel de la démonstration de Naomi Klein. Il faut toujours passer à des régimes d'exception sous une forme ou sous une autre. Et ça, c'est un point tout à fait fondamental. Les procédures même constitutionnelles démocratiques normales en Grèce ont été bafouées dès la mise en place de ces mémorandums. L'une des premières dispositions du premier mémorandum, celui de 2010, c'était que les décrets principaux du ministre de l'économie et des finances pouvaient être pris avec sa simple signature sans accords et sans vote du Parlement. Ça indiquait déjà qu'on était en dehors du cadre normal du fonctionnement institutionnel et de celui prévu par la Constitution. Depuis, on est arrivé à une véritable mise sous tutelle du pays par les diverses inspections de la Troïka et maintenant avec la task force dirigée par Monsieur Reichenbach et son escouade d'experts qui passent au peigne fin toutes les décisions qui sont prises dans les ministères et dans les administrations. Et il faut voir la manière dont ces représentants des institutions européennes se comportent dans leurs déclarations publiques. Ils se comportent exactement comme des proconsuls. D'ailleurs, les représentants de la Troïka ont dû renoncer aux conférences de presse qu'ils donnaient parce que ça créait un climat de tension et un climat qui était perçu comme tout à fait provoquant par l'opinion publique, qui était devenu insoutenable et ingérable d'ailleurs par les journalistes eux-mêmes.
Cet homme est sans doute le plus controversé de Grèce en ce moment.
France 24.
Horst Reichenbach est le chef de la Task Force, le groupe de travail de l'Union européenne.
27 octobre 2011.
Avec ses équipes, il est chargé d'aider la Grèce à avancer sur les réformes imposées par l'Union européenne et le Fonds monétaire international. Car depuis 18 mois, le pays peine à atteindre ses objectifs. L'allègement de la bureaucratie et l'efficacité dans l'intégralité du secteur public pourraient aider l'État grec à réduire ses dépenses publiques jugées colossales.
Je veux juste intervenir par rapport...
France 5.
Qui se passe en Grèce depuis quelques mois.
Alexia Kefalas, 7 novembre 2011.
Il y a ce qu'on appelle la Task Force, qui est en fait une équipe de l'Union européenne, des technocrates, qui viennent s'immiscer dans tous les ministères grecs pour voir comment sont appliquées les mesures de rigueur, comment les réformes sont effectuées. Et c'est très très difficile pour les Grecs d'accepter ça. Le chef de la Task Force est un Allemand qui s'appelle Horst Reichenbach. Et bien cet Allemand, il est insulté de tous les noms en Grèce. On l'appelle le Gauleiter. Vous savez, ces officiers SS pendant le régime nazi. On l'appelle, on dit que c'est le 4e Reich en Grèce. C'est très très violemment vécu par les Grecs.
Pas de temps à perdre pour Horst Reichenbach. Il court de ministère en ministère pour suivre l'évolution des efforts du pays. Malgré son optimisme, celui que les Grecs appellent le véritable Premier ministre est réaliste.
Bah, c'est certainement un travail, pas de quelques mois, mais un travail de quelques années.
Alors, d'un côté, donc, la démocratie et la souveraineté du pays sont bafouées et ce d'emblée, avec des conséquences extrêmement concrètes d'ailleurs. Hein, la mise à l'encan du pays, la vente à travers ces programmes de privatisation drastique de tous ces biens publics nécessite ce type de mise sous tutelle, ne peuvent pas être réalisées autrement. Le deuxième mémorandum, celui qui a été voté le 12 février dernier, prévoit une procédure de mise en vente de tous ces biens publics, c'est-à-dire de l'eau, de l'électricité, des ports, des infrastructures matérielles du pays, calquées sur le modèle est-allemand de la Troyande qui a liquidé la totalité du tissu productif de l'ancienne Allemagne de l'Est. Et c'est une agence privée qui va être chargée de le faire. Ce n'est même pas une agence publique. Bon, on voit bien quelle est la philosophie qui se trouve donc derrière ça. On a essayé de faire porter, dès les débuts, le chapeau aux Grecs eux-mêmes, pour éviter évidemment de s'interroger sur les mécanismes, qui sont des mécanismes beaucoup plus larges, qui sont des mécanismes systémiques, qui sont des mécanismes qui concernent en tout premier lieu l'Union européenne elle-même, et qui expliquent pourquoi le cas grec est certes un cas aggravé, mais quand même fait partie d'une crise plus large, qui est la crise européenne dans son ensemble, et qui est accentuée dans tous les pays de la périphérie. Fondamentalement, les problèmes de la Grèce ne sont pas différents de ceux des autres pays de la périphérie, du Portugal par exemple, ou de l'Espagne. Simplement, il y a des facteurs aggravants supplémentaires dans le cas de la Grèce. Et une dernière remarque quand même concernant ces phénomènes de corruption. Hein, je crois que c'est un dirigeant africain qui l'avait dit, parlant du ce qu'on appelle ici la France-Afrique. S'il y a un corrompu, il y a aussi un corrupteur. Je tiens à signaler que le plus grand scandale des dernières années en Grèce, qui implique des responsables politiques du plus haut niveau, et que le précédent Parlement s'est empressé d'absoudre suite à des pseudo-commissions d'enquête parlementaires, est le scandale Siemens. Siemens n'est pas une société grecque, à ma connaissance. C'est une société allemande. Et on pourrait en citer plusieurs autres. On a parlé du cas des industries d'armement. Mais il faut bien voir que ces fameux crédits qui étaient donnés par la Grèce pendant la période précédente, crédits européens qui étaient donnés, bénéficiaient essentiellement à des sociétés européennes. C'est-à-dire au même moment où le pays s'endettait pour financer ce modèle de croissance insoutenable et écologiquement destructeur par ailleurs, au même moment, ces crédits et cet endettement bénéficiaient en très large partie aux sociétés qui étaient impliquées précisément, par exemple, dans les projets de construction d'infrastructures, dans des projets d'investissement d'ordre divers dans le pays. Donc nous avons une boucle qui permettait un renforcement supplémentaire des pays du centre européen et des capitaux des pays du centre européen au détriment des pays de la périphérie.
Statis, quand vous dites « on voit bien l'idéologie qu'il y a derrière », est-ce que vous n'êtes pas en train de suggérer un complot qui aurait été organisé, fomenté? Ou bien est-ce que vous pensez qu'il y a là, et c'est, on en revient à Naomi Klein, une aubaine pour ceux qui sont les tenants des idées de l'idéologie néolibérale?
Absolument, c'est un effet d'aubaine. Il s'agit d'imposer effectivement un modèle, à travers la thérapie de choc, un modèle de croissance, ou un modèle, on n'ose pas dire vraiment, de développement du pays, qui est basé sur la privatisation totale et l'exploitation d'une main-d'œuvre bon marché, en réalité par des enclaves de développement et d'investissement, en grande partie d'ailleurs alimenté par l'investissement étranger, quelque chose comme un modèle de type Afrique du Nord, mais en Europe même, ou d'ailleurs quelque chose de peut-être de comparable à celui de certains pays d'Europe de l'Est, par exemple la Pologne. Et ces exemples sont cités de plus en plus par les responsables politiques eux-mêmes. Et le but est de ramener les salaires grecs, déjà très bas pour des normes occidentales, au niveau des pays d'Europe de l'Est. Lucas Papademos, l'ancien Premier ministre, l'avait mentionné explicitement d'ailleurs comme objectif. Ce que je veux dire plus fondamentalement qui concerne l'Europe, il ne s'agit pas du tout d'un complot. Il s'agit d'une réalité qui est produite par le fait suivant, que contrairement à ce qui était affirmé comme objectif de cette fameuse intégration européenne, l'Union européenne, à la manière dont elle fonctionne, ne conduit pas vers la convergence, ne conduit pas vers une montée en quelque sorte et une progression de ces pays, un rattrapage des pays les moins développés vers le niveau des pays le plus développés. Elle conduit au contraire à des phénomènes de polarisation. Elle conduit à des phénomènes de divergence croissante entre les pays. Et ces phénomènes de polarisation engendrent des contradictions qu'on voit surgir à l'heure actuelle. Et au niveau du discours et au niveau de l'idéologie, ils engendrent un racisme de type nouveau qui vise à stigmatiser précisément les perdants. Et c'est ça qu'on sert d'une certaine façon par exemple, à l'opinion publique allemande. Une opinion publique qui est déjà échaudée parce qu'elle a payé un prix très lourd, en fait, pour ce fameux modèle allemand dont on n'arrête pas de nous parler. Les salaires allemands sont les seuls salaires en Europe qui ont été, en termes réels, absolument bloqués pendant toute cette période. La dépense publique allemande, parce que l'Allemagne a réussi à appliquer, effectivement, avec rigueur, beaucoup plus de rigueur que les autres pays, les fameux critères de Maastricht, est bloquée à tel point que une grande partie des lenders allemands est en faillite, par exemple Berlin, le land de la capitale, ou sur le bord d'être en faillite. Donc c'est une population qui a déjà payé un tribut très lourd, en fait, à ce modèle, et à laquelle on essaye de faire croire maintenant qu'il faut donner, payer pour les péchés et les erreurs des Grecs. Donc il y a une véritable opération idéologique de diversion qui est mise, mais qui est alimentée par les contradictions internes de l'édifice européen et de l'intégration européenne telle qu'elle fonctionne actuellement.
Papandréou choque l'Europe. Outre-Rhin ce matin, toute la presse s'en fait l'écho.
TF1, 2 novembre 2011.
La décision du Premier ministre grec de soumettre le plan de sauvetage à un référendum est considérée comme un geste politique désespéré et une ineptie économique. Oui, ça peut être un risque. Pour l'Allemagne comme pour la France, pour toute la zone euro. Une bombe à retardement qui pourrait créer de sérieux dommages collatéraux. Avec les banques françaises, les banques allemandes sont elles aussi en première ligne exposées à hauteur de 15 milliards d'euros. Financer la dette grecque est une opération mal vécue par les épargnants.
Je trouve que ce n'est pas juste. Nous avons déjà suffisamment aidé la Grèce. Il faut maintenant répartir les aides équitablement et que les Grecs travaillent davantage.
La France et l'Allemagne, nous avons déjà suffisamment payé. Et si la Grèce vote non, que se passera-t-il? Je n'ai plus aucune compassion pour eux.
On est avec Stathis Kouvelakis. Stathis, on continue sur ce qui se passe dans votre pays. On va revenir aux élections. Là, on est obligé de suivre presque minute par minute la possibilité ou non de constituer un nouveau gouvernement par le PASOK, c'est-à-dire le Parti Socialiste, mais qui a perdu son hégémonie. Mais auparavant, je voudrais que vous me parliez de la résistance des Grecs. On a, pour ce qui nous concerne, fait des reportages sur ces manifestations. Ça continue. Les Grecs résistent, se battent. C'est parfois de façon extrêmement violente. Quelle est la situation? Comment vous voyez vos compatriotes face à ce que vous venez de décrire?
Effectivement, nous avons insisté depuis le début, depuis le jour même d'ailleurs où le premier mémorandum a été voté, le 5 mai 2010, à des vagues successives de mouvements sociaux, de manifestations, de grèves, d'occupations des places, qui ont d'ailleurs placé plusieurs fois la Grèce sous les feux des projecteurs de l'actualité pendant cette période. La résistance populaire a été continue et extrêmement multiforme. Il faut le souligner, ça commence à partir d'initiatives locales pour faire face justement à la situation d'urgence qui est créée par l'effondrement en fait de tout ce qui existe. Ça commence par des initiatives locales de solidarité, mais aussi pour empêcher les coupures de courant, pour faire face à l'effondrement des services publics, jusqu'aux grands mouvements sociaux, aux mouvements de grève, aux mouvements de manifestation, et jusqu'à ce mouvement nouveau pour la Grèce, mais qui s'inscrit dans ce cycle plus large de mobilisation populaire à l'échelle internationale, qui était le mouvement d'occupation des places du printemps dernier. C'est précisément parce qu'il y a eu ces mouvements d'action collective à une échelle gigantesque. Des millions de personnes y ont participé. La majorité de la population adulte du pays a participé au moins à l'un de ces moments d'action collective que nous avons eu ce résultat dans les urnes. C'est-à-dire que le résultat de ces élections est la traduction logique à un niveau électoral de ce qui s'est passé dans la société et dans le pays depuis ces deux années. Mmh. Et c'est précisément parce qu'il y a eu ces mouvements que l'essentiel de cette révolte de la population est allée vers la gauche et non pas vers la droite. Donc, il faut souligner que c'est la situation, bien sûr, qui se radicalise. C'est la situation qui se radicalise et qui ne laisse du champ qu'à des solutions radicales. Mais les solutions radicales peuvent être des solutions radicales de droite et des solutions radicales de gauche. Nous l'avons vu à chaque fois au cours de l'histoire, lors des grands moments de crise, justement. Mais pour le moment en Grèce, et je voudrais le souligner, et ce n'est pour, je ne veux en rien sous-estimer le rôle d'aube dorée et du danger que cela représente, mais il faut quand même voir que la tendance principale est le renforcement des forces qui, à gauche, ont lutté contre ces programmes d'austérité et qui, maintenant, postulent au pouvoir pour pouvoir mettre fin, précisément, aux politiques qui ont été appliquées ces deux dernières années.
Il est le visage de la gauche triomphante, celle qui a su catalyser la colère des Grecs, qui rejette en bloc les diktats de Bruxelles et l'austérité imposée aux Grecs. Celle qui vient de balayer d'un revers de voix la gauche traditionnelle du PASOK après 30 ans au pouvoir, reléguée en troisième position. Alexis Tsipras, 37 ans, a donc réussi son incroyable pari et fait de sa coalition de gauche radicale la deuxième force politique du pays.
Euronews, 8 mai 2012.
Après sa rencontre avec Samaras, Tsipras a été on ne peut plus clair. Le plan de sauvetage signé n'a pas apporté de salut, a-t-il dit. C'est une tragédie pour le peuple. Nous comprenons les difficultés auxquelles fait face le pays, mais en même temps, le choix du peuple ouvre des possibilités pour un chemin radicalement différent. C'est en faisant campagne sur ce thème, l'austérité ça suffit, une autre voie est possible, rejet des accords passés avec l'Union européenne et le FMI, mais maintien dans la zone euro, que ce jeune ingénieur aux allures modernes a su convaincre les électeurs. Tsipras a notamment fait mouche auprès des jeunes et dans les zones urbaines et a su s'entourer de grandes figures du pays et d'intellectuels.
Tatis, comparaison n'est pas raison. Si on fait un rapprochement entre cette crise que nous vivons et que vous vivez encore bien plus cruellement en Grèce de l'époque des années 30, il faut pas oublier que la crise venue des États-Unis qui se répand en Europe va donner tantôt chez nous en France un front populaire, va renforcer le franquisme, va renforcer l'Italie fasciste, mais va donner une France avec ce front populaire, une France de gauche avec l'élan qu'on sait. C'est-à-dire qu'à partir de la même crise, et puis on aura évidemment le New Deal aussi aux États-Unis. Donc à partir d'une même crise, on peut aller vers des voies historiques tout à fait différentes et même opposées.
Tout à fait. Mais je voudrais quand même... Il est important que les auditeurs comprennent un peu les tendances et leur poids relatif respectif. En Grèce, il y avait déjà un parti d'extrême droite, xénophobe et anti-immigré, comparable au Front National en France, qui était le parti Laos. Ce parti était déjà représenté au Parlement, il avait recueilli près de 6% des voix aux élections de 2009, et il a fait l'erreur d'accepter dès le début les programmes d'austérité et de chercher par tous les moyens à rejoindre une coalition gouvernementale élargie. Ce qu'il a effectivement réussi à faire dans le gouvernement du très respecté banquier et technocrate Monsieur Papademos. À partir de ce moment-là, ils se sont effondrés. Et la majeure partie de leur électorat d'ailleurs est allée encore plus à droite vers justement ce groupe néo-nazi obdoré. Donc, pour donner l'ordre de grandeur, une extrême droite qui était en 2009 à peu près 6% des voix, 5,7, passe maintenant à 10%, mais majoritairement, c'est maintenant un groupe encore plus radical que l'ancien parti d'extrême droite Laos, à savoir le groupe néo-nazi Aube Dorée, qui fait son entrée au Parlement, alors que le Laos en est exclu. Il a à peine plus de 2% des voix. Donc l'extrême droite progresse en passant de 6 à 10% et se radicalise avec la montée de ce groupe néo-nazi. D'accord. Oui. En même temps, les partis qui se trouvent à gauche du PASOK passe de 13 à près de 33%, 34% des voix. C'est quand même considérable, ça veut dire que l'essentiel de la dynamique, justement, à l'heure actuelle politique, va vers la gauche et non pas vers l'extrême droite.
Quand vous dites la gauche, il faut faire une nuance entre le PASOK, qui est un parti socialiste. Faites-nous bien la différence entre...
Oui.
On a besoin de ça.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est encore plus...
Entre le PASOK et Syriza.
Bien sûr. Alors, le PASOK et Syriza, pour donner une idée aux auditeurs français, il y a à peu près autant, et en réalité davantage de distance, qu'entre le Parti Socialiste et, disons, le Front de Gauche. Hein. À ceci près que le Parti Socialiste en Grèce a été hégémonique pendant des décennies. C'est le parti qui a gouverné le pays le plus longtemps depuis le début des années 80. Il est largement perçu comme le responsable principal de la situation actuelle. C'est un gouvernement du PASOK dirigé par Georges Papandréou qui a mis en place toutes ces mesures précisément d'austérité, cette thérapie de choc depuis 2009, qui a placé le pays sous la tutelle de la Troïka. Et c'est le parti qui a été le plus sévèrement puni par les électeurs. C'est un niveau d'effondrement que nous n'avons jamais vu. À mon avis, il n'y a pas de précédent dans les annales électorales en Europe. Je ne connais pas d'autres exemples de partis social-démocrates qui, en 3 ans, passent de 44 à 13% des voix. C'est un parti qui est rejeté vraiment de façon extrêmement viscérale à l'heure actuelle par la population. Syriza couvre l'espace de la gauche radicale.
C'est peut-être pas forcément le PASOK qui est rejeté. C'est la Troïka. C'est le mémorandum.
C'est la Troïka et c'est le mémorandum. Et ce n'est pas simplement le PASOK. C'est le système des partis du gouvernement en Grèce. C'est le bipartisme qui a régné sans faille dans ce pays. Il n'y a que deux partis, la Nouvelle Démocratie et le PASOK, qui se sont succédés au pouvoir depuis la chute de la dictature des colonels en 1974 jusqu'à aujourd'hui. C'est donc l'ensemble de ce système politique qui est perçu comme étant en faillite complète. Ça, c'est l'un des aspects caractéristiques de la situation grecque. C'est-à-dire le niveau de la crise politique atteint un seuil où c'est l'ensemble d'un modèle politique, je dirais même d'un régime qui se trouve remis en cause, en fait, par la population et qui est rejeté. Et qui donc recherche des alternatives, des solutions qui sont en dehors précisément du cadre de ce système et de ce régime. Et on le sait très bien, et vous l'avez rappelé auparavant, que ces alternatives existent à droite, c'est-à-dire à l'extrême droite, et aussi elles existent dans la gauche radicale. Et je dirais même, si la gauche radicale, si les forces progressistes ne font pas leur boulot dans des conjonctures pareilles, eh bien, elles vont être punies. Et leur punition, ce sont précisément les forces de type fasciste et autoritaire à droite.
Le parti grec, l'aube dorée, fait son entrée au Parlement.
France 24, 10 mai 2012.
Parti ultranationaliste, cet ex-groupuscule semi-clandestin qui revendique notamment des thèses racistes aura 21 sièges au Parlement grec. Les ténors du parti ne cachent pas leurs ambitions, lutter contre le plan de rigueur et l'immigration. Deux thèmes qui connaissent un certain succès auprès de la population grecque depuis que le pays est frappé par la crise.
Quelle sera votre première mesure ?
Tous les immigrants illégaux, dehors, hors de mon pays, hors de mon foyer.
Mais le parti rejette l'appellation néo-nazi. Sur son drapeau, un symbole grec ancien qui pour beaucoup rappelle la croix gammée nazie. Sur le terrain, les membres du parti sont essentiellement connus pour leurs actions violente envers ceux qu'il nomme les bronzés.
On est avec Statis Kouvelakis. Alors, ce qui caractérise ces partis de gauche, d'extrême droite, etc., c'est aussi quand même la sortie de l'euro. Est-ce qu'il faut sortir de l'euro? Est-ce qu'il faut sortir de l'Europe? Évoquez-nous ces enjeux.
Alors, je dois d'abord préciser une chose. Personne, malgré les discours extrêmement virulents contre la Troïka, contre le mémorandum, personne à l'extrême droite ne parle de sortie de l'euro, y compris le groupe Aube Dorée, d'ailleurs. Hein. Ils se présentent comme des nationalistes, des patriotes grecs, des gens qui vont libérer le pays de la tutelle de la Troïka et bien sûr de l'invasion qu'il subit par tous ces immigrés, ces migrants, etc. Ils ont ce discours, ils ne parlent pas du tout d'une rupture avec l'Union européenne et avec l'euro. La situation à gauche est plus complexe. Il y a des forces qui sont traditionnellement hostiles à l'Union européenne. C'est le cas du Parti communiste, par exemple. Et qui sont donc, par voie de conséquence, hostiles à l'euro. Mais ils ne mettent pas en avant le Parti communiste, des mots d'ordre de sortie de l'euro, par exemple. Et ils ne disent rien concernant la dette. Ils mettent en avant des objectifs que je qualifierais de tout à fait maximalistes, qui sont ceux de l'accès au pouvoir de leur parti et de l'instauration d'un pouvoir populaire qui va résoudre tout le problème en mettant fin au capitalisme, en réalité. Syriza, qui est devenue maintenant la force principale à gauche de la social-démocratie, qui a obtenu donc près de 17% aux dernières élections, les sondages actuellement le créditent de près de 30% si de nouvelles élections ont lieu, ce qui apparaît comme le scénario le plus probable. Syriza est hostile à une sortie de l'euro, majoritairement hostile. Il pense pouvoir faire la chose suivante. Rejeter, donc rompre avec le cadre des mémorandums et de la Troïka, annuler, comme ils disent, les mesures qui ont été prises pendant ces dernières années, considérer que les engagements pris par les gouvernements grecs précédents sont nuls et non avenus, si eux accèdent aux responsabilités, mais ils pensent que ceci est compatible avec le maintien du pays dans la zone euro. Il faut bien voir que la population grecque, dans sa majorité, à l'heure actuelle, ne veut pas de la sortie de l'euro. Dans sa majorité, hein, et les aux deux tiers à peu près, ils ne veulent pas. Ils ont peur, il y a encore un réflexe de peur par rapport à ça. Ils se disent la Grèce est trop petite pour tracer une voie séparée du reste de l'Europe. Déjà, si nous faisons défaut sur la dette et que nous annulons précisément les engagements qui ont été pris avec la Troïka, nous subirons des pressions énormes, ils vont nous faire la guerre. Si en plus on sort de l'euro, on n'aura pas de ressources suffisantes pour résister à toutes ces pressions. Je pense que si Syriza tient ses engagements, c'est-à-dire annule le cadre des mémorandums et des accords signés par les précédents gouvernements avec la Troïka, interrompt le paiement de la dette, passe à un moratoire immédiat et unilatéral sur la dette, ce qui est leur engagement préélectoral, inévitablement, un processus de confrontation avec l'Union européenne telle qu'elle est actuellement va s'enclencher et la sortie de l'euro est inévitable. Et je considère que ce n'est pas une catastrophe, car en réalité, je pense que la Grèce, la population grecque, a déjà payé un tribut très lourd à l'eurozone et à l'union économique et monétaire telle qu'elle fonctionne actuellement.
Ben alors sortir de l'euro, supposons hein, ce scénario, sortir de l'euro, ça veut dire que le Portugal serait amené à faire la même chose, l'Espagne, non? Ou bien il n'y aurait que la Grèce qui sortirait de l'euro?
Moi, je pense que jouer la carte, et je fais ici une différence entre sortir de l'eurozone et sortir de l'Union européenne. Moi, je pense que l'idée d'accentuer la crise interne de l'Union européenne pour mettre à bas cet édifice néolibéral et antidémocratique tel qu'il existe à l'heure actuelle est une bonne stratégie, voire même est la seule stratégie en fait pour des forces qui se veulent progressistes et qui défendent les intérêts de la majorité de la population.
La coalition gouvernementale grecque n'a pas encore donné à la Troïka des créanciers de la Grèce un gage crédible d'unité sur les réformes et leur mise en œuvre demandées.
Euronews, 8 mai 2012.
Pour que la Troïka s'engage sur un deuxième prêt au pays. Et la situation actuelle rapproche encore un peu plus la Grèce du défaut de paiement le mois prochain.
Les coûts d'une éventuelle sortie de la Grèce, l'euro, seraient beaucoup plus élevés que les coûts de continuer à soutenir la Grèce.
José Manuel Barroso, président de la Commission européenne.
Il faut aussi que la Grèce s'engage, et s'engage de façon claire, sans ambiguïté, à faire les efforts d'ajustement nécessaires, qui sont des efforts très exigeants, je le reconnais, mais qui pourront porter fruit à moyen terme.
La Grèce a une longueur d'avance, je dirais. C'est ça, en fait, sa spécificité. La situation a atteint un niveau de gravité et d'insoutenabilité qui n'est pas encore celui de la situation portugaise. Elle sera sans doute amenée à prendre des mesures et à avancer avant les autres, ce qui veut dire à montrer la voie aussi. Moi, je pense que la Grèce peut devenir en quelque sorte la Tunisie de l'Europe. Les Tunisiens n'ont pas attendu que les Égyptiens se soulèvent, qui sont un grand pays, pour renverser leur propre tyran. Ils ont commencé. C'est un petit pays, mais c'est par là, finalement, que le printemps arabe a commencé. Moi, je pense que c'est quelque chose d'équivalent, toute proportion gardée, bien sûr, qui doit se passer en Grèce. Il faut que des initiatives soient prises, dans un premier temps, par la Grèce, mais ici, bien sûr, le soutien des opinions publiques européennes, le soutien des forces progressistes qui sont capables de relayer précisément ce qui se passe en Grèce, en France et ailleurs en Europe, est tout à fait crucial. C'est plutôt sur un tel soutien transitoirement par le bas que je mise pour ma part, plutôt que sur un soutien, par exemple, du nouveau président qui vient d'être élu en France.
Statis Kouvilakis, bon, tu es philosophe, mais enfin, tu es politologue aussi, passionné par l'histoire et par la politique, engagé, on l'a compris, et c'est vraiment des moments où l'histoire vacille. Hein, on ne sait pas du tout ce qui peut se passer là. Peut-être que aujourd'hui même, ce soir, demain, lundi, il y aura un nouveau gouvernement en Grèce. Peut-être que non. Dans ce cas-là, les élections auront lieu le 17 juin, avec une possibilité, on a compris que c'est ce que tu espérais, que Syriza joue un rôle à ce moment-là prépondérant. Moi, j'aimerais comprendre un peu l'état d'esprit actuellement, là, ces jours-ci, de tes compatriotes.
Alors, il faut dire d'abord que les élections n'ont permis aucune majorité au Parlement de se dégager. Le rejet du PASOK et de la Nouvelle Démocratie a été tel que, malgré un système électoral qui donne un bonus de 50 sièges au parti qui est arrivé en premier, en l'occurrence de peu à la Nouvelle Démocratie, qui est juste à 2 points devant Syriza, malgré cela, le PASOK et la Nouvelle Démocratie n'arrivent pas à constituer de majorité parlementaire. Hein. Et vu le rejet dont il faut l'objet, il paraît difficile, même si on ne peut rien exclure, que toutes tout ce qui grenouille à l'heure actuelle pour essayer malgré tout de bricoler une majorité au Parlement, il est douteux que cela puisse aboutir. Donc, il est probable en fait qu'on s'achemine vers de nouvelles élections. Et tous les indices, y compris d'ailleurs les premiers sondages qui sont faits depuis dimanche, montre qu'il y aura une nouvelle poussée en faveur de la gauche radicale et plus particulièrement en faveur de Syriza, crédité entre 27 et 28% des voix dans les premiers sondages. En effet, ce qu'il faut noter, c'est le changement de l'état d'esprit de la population. Les jours qui ont précédé le scrutin et le jour même du scrutin, une sorte de détente, une sorte de joie est apparue dans la population et dans de larges couches de l'électorat. Enfin, une issue était possible. Enfin, on voyait que, avec un vote massif en faveur de la gauche radicale et de la Syriza, il était possible de changer, de bouleverser le rapport de force tout de suite et de transformer ce rejet viscéral des partis perçus comme responsables de la situation en une perspective positive. Et le climat de la peur a reculé. Et le pays s'est réveillé, en quelque sorte, lundi, avec un paysage politique profondément bouleversé. Et puis, ce n'était pas la fin du monde, tout simplement. Bien sûr, la situation est dramatique, mais elle l'était avant. Et au contraire, ce qui apparaît maintenant, c'est la possibilité d'un espoir. Et cet espoir, Syriza a su précisément le porter par sa proposition unitaire d'un gouvernement qui regrouperait toutes les forces de la gauche qui ont lutté contre les politiques d'austérité.
Voilà, merci à Statis Kouvilakis pour cet entretien sur le thème « Le poison grec » à lire dans le numéro de mars-avril 2012 de la Revue des livres, excellente revue. « Grèce, destruction programmée d'un pays », un long papier de Statis Kouvilakis. Et puis autre chose, les 26 et 27 mai prochains, l'association résistante d'hier et d'aujourd'hui organise comme chaque année un rassemblement sur le plateau des Glières. Vous connaissez tout ce monde-là et cet endroit. Parmi les intervenants cette année, on aura Éric Toussaint, Bernard Friot, Denis Robert, Xavier Mathieu et l'indispensable François Ruffin. Et puis le samedi soir, ce sera le repère des repères de la base, si j'y suis, à Torrent-Glières, c'est-à-dire en bas du plateau des Glières. On se retrouvera tous là, donc, ce 26 samedi et 27 mai, le dimanche. Tous les renseignements sont sur le site www.citoyen-resistant.fr, au pluriel, hein, www.citoyen-resistant.fr. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter, rassurez-vous, à la rubrique émission là-bas si j'y suis, ainsi que sur le site là-bas.org, là-bas.org. Et puis il y a aussi notre page Facebook où nous pouvons nous retrouver. À la technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Philippe Duclos, Bertrand Chompton et Franck Adhérer, aidés de Antoine Chao, ont réalisé cette émission. Assistante Marina Touillez et Grégory Salomonovitch.
attend vos messages sur le répondeur de la BACIJ. J'y suis au 01 56 40 37 37 réclame.
J'avais l'habitude de nager à la piscine, mais depuis que j'ai gagné à Euromillion, j'en ai mis une dans mon jardin. Puis bon, bah, je l'ai un peu agrandi. Bah oui, maintenant je nage 3000 mètres chaque matin, toujours en une seule longueur. C'est comme ça, j'ai jamais su faire demi-tour.
Euromillion, et si votre vie devenait infiniment plus riche?
Tirage Euromillion le vendredi et le mardi. Ce vendredi, jackpot de près de 44 millions d'euros. À partager au rang 1, voire règlement.
FDJ, jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Votre boulangerie est un succès. Vos croissants se vendent comme des petits pains, vos pâtisseries régalent les gourmands, vos baguettes s'arrachent et la paperasse s'entasse. Bref, vous avez du pain sur la planche.
Avec votre espace client EDF Pro, consultez vos factures et vos contrats, communiquez vos relevés d'index et payez en ligne votre consommation réelle. Créez vite votre espace client pro sur edfpro.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
France Inter présente « Des arbres à abattre » du 16 mai au 15 juin au Théâtre National de la Colline à Paris. Claude Duparfait et Célie Pote s'emparent avec cinq acteurs de l'urgence du roman majeur de Thomas Bernard, un réquisitoire dont l'humour désintégrateur se nourrit d'une quête brûlante. Retrouvez la vraie promesse de l'art, celle d'une pleine respiration. Retrouvez « Des arbres à abattre » au Théâtre de la Colline dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr. France Inter, partenaire des Francopholies de La Rochelle du 11 au 15 juillet. 5 jours de live et plus de 130 concerts avec Charlie Winston, Hubert Félix Thiéphène, Catherine Ringer, Laurent Voulzy, Martin Salveig, Dionysos. Retrouvez-les dans les programmes de France Inter. Renseignements au 05 46 50 55 77 sur francopholies.fr et sur franceinter.fr.
À lundi, 15h pour la BACIJ, si j'y suis. Bonne fin de semaine à tous. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut.
Bruxelles annonce aujourd'hui de nouvelles sanctions à venir contre la Syrie. Elles seront prises lundi lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères des 27 à Bruxelles. Donc, il s'agira de geler les avoirs de deux entreprises et de trois personnalités considérées comme des sources de financement du régime de Bachar el-Assad. Sur le terrain en Syrie, les forces du régime ont tiré cet après-midi sur des manifestants à Damas, notamment les opposants appelés à descendre dans la rue au lendemain du double attentat de Damas. Les autorités syriennes annoncent par ailleurs, elles aujourd'hui, de leur côté, avoir déjoué un nouvel attentat suicide à la voiture piégée à Alep. Le kamikaze a été tué. François Hollande était en Corrèze ce matin pour faire ses adieux aux élus et aux habitants et passer la main au Conseil Général. Le président élu a parlé d'arrachage mais aussi d'élévation. En attendant la passation de pouvoir mardi prochain, François Hollande prend petit à petit ses fonctions de président. Au niveau diplomatique, on sait qu'il sera à Berlin mardi après-midi. Ensuite, viendra le sommet du G8 et de l'OTAN aux États-Unis. À ce propos, trois émissaires américains ont rencontré aujourd'hui à Paris l'équipe diplomatique de François Hollande pour préparer la visite la semaine prochaine donc du président et de sa rencontre avec Barack Obama. La crise de la dette grecque fait partie des gros dossiers sur lesquels devra plancher François Hollande, on le sait. La situation politique est toujours aussi chaotique. Là-bas, le leader socialiste Evangelos Venizelos tente toujours aujourd'hui de former un gouvernement de coalition. Pour résoudre la crise grecque, la question de la sortie de la zone euro d'Athènes n'est d'ailleurs plus taboue aujourd'hui. Mais Fitch prévient, si la Grèce sort de l'euro, l'agence de notation placera alors vraisemblablement toutes les notes souveraines de la zone euro sous surveillance négative. Ne vous moquez pas, Didier. L'action de JP Morgan Chase, la première banque américaine en termes d'actifs, a chuté à l'ouverture de Wall Street cet après-midi, moins 9%. Conséquence en fait de pertes de courtage record annoncées hier, les plus lourdes depuis la crise des subprimes en 2008. Du coup, les cours du pétrole sont eux aussi en repli cet après-midi. Retour en France, 4 des 12 pompiers de Paris présentés ce matin devant le juge d'instruction devraient être mis en examen pour viol en réunion. Ils sont soupçonnés d'avoir violé un jeune engagé dans un bus dimanche dernier. Le parquet de Paris a requis également le placement en détention pour 3 d'entre eux. Les autres devraient être poursuivis pour violence volontaire. Fumer sur les terrasses des cafés protégés par des bâches n'est pas interdit. La Cour d'appel de Paris a rejeté cet après-midi la demande de l'association Droits des non-fumeurs. Elle confirme donc le jugement en première instance. La Cour d'appel de Paris considère en fait que l'association n'a pas apporté la preuve que ces terrasses étaient des lieux couverts et fermés. L'avocat de Droits des non-fumeurs a décidé, lui, de porter l'affaire en cassation. Enfin, 2 ans de prison avec sursis et 20 000 euros d'amende ont été requis aujourd'hui contre l'ancienne préfète de Lozère. Françoise de Bézieux comparaissait devant la Cour d'appel de Nîmes aujourd'hui pour vol et détournement de biens. L'avocat général est allé dans ses réquisitions au-delà de la condamnation en première instance, qui était de 6 mois avec sursis et 5 000 euros d'amende. La Cour rendra son arrêt le 29 juin prochain. Vous écoutez France Inter, 16h03.
Nous autres.
Zoé Varier.
Pékin, c'est le grand show. Ici, l'argent coule à flot et tout le monde espère avoir sa part du gâteau. Tsingtsing a 22 ans. Elle a quitté son village, attirée par les lumières de la ville.
Nous autres, ce soir, à partir de 20h.
France Inter.
La différence.
Alors on a ses gâteaux, sa bouteille d'eau, on est prêt, Didier ?
Je crois que je vous ai troublé. Je suis rentré de manière intempestive dans ce studio.
Vous parlâtes pendant que je parle.
Oui, mais j'aime tellement vous regarder.
Ok.
Dans votre petit... vous rougissez, ouais. Vous rougissez.
Les gars, sauvez-moi derrière.
Vous revenez à 17h ?
Ouais, je reviens.
Vous voulez pas faire Cali comme métier, en attendant que Cali arrive, puisqu'il est bloqué dans les rues de Paris ?
Et Paris, il faut que je prenne l'accent du Sud, c'est ça ?
Entre autres.
Et gamin !
Il va être content quand il m'entend ça. On vous retrouve à 17h.
Quand la musique donne...
Rock, musique électro, techno,
chanson, rap.
La musique d'aujourd'hui, en fait, de la musique moderne.
La musique, elle est juste là, comment... C'est une vibration.
Didier Varro.
Il est né à Perpignan, il est né à Paris. Il a grandi à Vernay-les-Bains, dansé à Fillols, pleuré à Rivesaltes, foncé dans une mêlée de costauds à Perpignan. Il a grandi aux Philippines, au son de Pierre-Henri, s'est déformé à New York, électrisé au Liban, incarné enfin à Berlin. Il voulait être rugbyman à son poste ouverture numéro 10. Il n'aurait pas pu être autre chose que musicien. Il dit « Au pied du mont Canigou, je suis un villageois et un campagnard ». Il dit « La seule chose que je sais, c'est que si je n'avais pas été musicien, j'aurais pu devenir paysan ». Il a commencé sa carrière artistique par un fait d'armes. Son premier groupe s'appelait « Pénétration anale » et il s'est fait virer de son lycée Charles Renouvier parce qu'il avait chanté à la fête de son lycée « J'encule Charles Renouvier ». Il s'est fait expulser du Liban car son image publique au sein de son groupe punk rock commençait à faire du bruit. Il aime U2, les Waterboys, Patti Smith, Ian McCulloch, Léo Ferré, Mio Sec. Il s'est nourri de l'œuvre de Brian Wilson, David Bowie, Bob Dylan, John Lennon, Jean-Sébastien Bach, Franz Liszt ou Beethoven. Il est autodidacte, lui non plus. Il porte sa féminité et sa félinité physique comme un trouble. Il arbore sa carrure de géant comme une angélique fragilité. Il parle d'amour, parfait, terroriste, entier, inquiétant, défunte, excessif, paternel aussi. Il chante le romantisme, ermite, écorché, solitaire, voyageur, dandy, glam. Il a écrit « Je n'ai jamais vendu mon âme au diable, je la lui prête de temps en temps ». Il a déclaré « J'aime le dandysme ». Avec des bottes pleines de boue. Il s'appelle Cali, il s'appelle Rover. Deux initiales pour deux noms d'artistes. CR. Non, il n'est pas question cet après-midi de l'ordre des clercs réguliers, ordre religieux tibétain, ni même du code rural, encore moins du centre républicain qui fut un groupe de centre droit sous la Troisième République. Non, CR, c'est Cali Rover sur France Inter, notre endroit privilégié pour une drôle de rencontre. Bonjour Rover.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien, très bien.
Alors on va essayer de dire bonjour à Cali.
Allô ?
Allô Cali ?
Allô, bonjour.
Bonjour Cali, ça va ?
Ça sert plus à rien que je vienne, ça, vous avez tout dit là.
Est-ce que ça avance au moins ?
Et on arrive, mais pas loin, mais je comprends exactement pourquoi je suis pas parisien, je n'habite pas à Paris, j'ai compris.
D'accord. Ouais. Alors, on va pas te laisser respirer, justement, puisque tu es dans ce taxi, que le petit rituel de ce début d'émission, c'est une question posée à l'invité. Cet après-midi, donc, Cali rencontre Rover. Donc, Cali va poser une question à Rover. Voilà, du taxi.
Bonjour, Rover.
Bonjour.
Ça va
très bien.
J'arrive,
je suis un peu seul.
Dès que possible, j'arrive, je te serre la main.
Ça marche.
Écoute, ouais, je voulais te demander, ouais, je sais que t'as démarré par des groupes punk et en fait, moi, il y a quelque chose qui me fascine depuis que je fais cette histoire-là, c'est la rencontre avec avec mes héros, des gens que j'ai pu croiser, des gens que j'ai écoutés chez moi dans mon village et que je croise aujourd'hui. Mm-hmm. Est-ce que toi, t'as eu l'occasion de rencontrer tes héros, les gens qui t'ont fait rêver et qu'est-ce que t'en as tiré si t'as pu les rencontrer?
Une belle question. Merci.
c'est une
question. Je suis déjà en train de réfléchir à la mienne, à changer la mienne déjà. c'est pas la même, elle était beaucoup moins intéressante et chargée d'humour, enfin je crois, du moins c'est ce que je pensais. Merci en tout cas pour la question. Les héros, j'ai un rapport particulier moi avec les gens que j'admire. Et Dieu sait s'ils sont nombreux, j'ai tendance à dire qu'il faut pas les rencontrer. On est souvent déçus, c'est un peu pour donner un exemple, par exemple, je sais que j'ai rencontré une fois un réalisateur que j'aime beaucoup et je l'ai vu en vrai et c'est Monsieur Straub en fait. Et l'avoir vu en vrai m'a fait un peu de peine, pas de peine dans le sens où j'ai été déçu, mais c'est toujours ça brise une part de rêve en fait et de l'imagination qu'on s'est construit en s'imaginant le personnage et j'aime toujours garder cette part de mystère en fin de compte.
Donc on imagine que Rover gardera dans son panthéon personnel la figure emblématique de Brian Wilson ou de David Bowie, mais que jamais il se dira j'aurais raté quelque chose à ne pas les rencontrer.
Mais certainement oui, parce que c'est souvent une question d'ailleurs qu'on se pose entre musiciens, avec qui souhaiterais-tu passer une soirée si t'avais l'occasion, mort ou vivant. Et c'est une question qui me met très mal à l'aise parce que je rêverais de passer un dîner avec Paul McCartney et puis lui poser plein de questions, même techniques comme ça sur